Jane Eyre, chapitre 17. Une semaine se passa sans qu'on reçût aucune nouvelle de M. Rochester. Au bout de 10 jours, il n'était pas encore revenu. Mme Fairfax me dit qu'elle ne serait pas étonnée qu'en quittant le château de M. Ashton, il se rendît à Londres, puis que de là, il passa sur le continent pour ne pas revenir à Thornfield toute l'année. Bien souvent, disait-elle, il avait quitté le château d'une manière aussi prompte et aussi inattendue. En l'entendant parler ainsi, j'éprouvai un étrange frisson et je sentis mon cœur défaillir. Je venais de subir un douloureux désappointement. Mais, ralliant mes esprits et rappelant mes principes, je m'efforçai de remettre de l'ordre dans mes sensations. Bientôt, je me rendis maîtresse de mon erreur passagère et je chassai l'idée que les actes de M. Rochester pussent avoir tant d'intérêt pour moi. Et pourtant, je ne cherchais pas à m'humilier en me persuadant que je lui étais trop inférieure. Mais je me disais que je n'avais rien à faire avec le maître de Thornfield, si ce n'est à recevoir les gages qu'il me devait pour les leçons que je donnais à sa protégée, à me montrer reconnaissante de la bonté et du respect qu'il me témoignait, bonté et respect auxquels j'avais droit du reste si j'accomplissais mon devoir. Je m'efforçais de me convaincre que M. Rochester ne pouvait admettre entre lui et moi que ce seul lien. Ainsi donc, c'était folie à moi de vouloir en faire l'objet de mes sentiments les plus doux, de mes extases, de mes déchirements, et ainsi de suite, puisqu'il n'était pas dans la même position que moi. Avant tout, je ne devais pas chercher à sortir de ma classe, je devais me respecter et ne pas nourrir avec toute la force de mon cœur et de mon âme un amour qu'on ne me demandait pas et qu'on mépriserait même. Je continuai tranquillement ma tâche, mais de temps en temps d'excellentes raisons s'offraient à mon esprit pour m'engager à quitter Thornfield. Involontairement, je me mettais à penser aux moyens de changer de place. Je crus inutile de chasser ces pensées. « Eh bien, me dis-je, laissons-les germer, et si elles le peuvent, qu'elles portent des fruits. » Il y avait à peu près 15 jours que M. Rochester était absent, lorsque Mme Fairfax reçut une lettre. « C'est de M. Rochester, dit-elle en regardant le timbre. Nous allons savoir s'il doit ou non revenir parmi nous. » Pendant qu'elle brisait le cachet et qu'elle lisait le contenu, je continuais à boire mon café. Nous étions à déjeuner. Il était très chaud, et ce fut un moyen pour moi d'expliquer la rougeur qui couvrit ma figure à la réception de la lettre. Mais je ne me donnais pas la peine de chercher la raison qui agitait ma main et qui me fit renverser la moitié de mon café dans ma soucoupe. « Quelquefois, je me plains que nous sommes trop tranquilles ici, » dit Mme Fairfax, en continuant de tenir la lettre devant ses lunettes. « Mais maintenant, nous allons être passablement occupés, pour quelque temps au moins. » Ici, je me permis de demander une explication. Après avoir rattaché le cordon du tablier d'Adèle qui venait de se dénouer, lui avoir versé une autre tasse de lait et lui avoir donné une talmouse, je dis nonchalamment « Monsieur Rochester ne doit probablement pas revenir de si tôt. » « Au contraire, il sera ici dans 3 jours, c'est-à-dire jeudi prochain. Et il ne vient pas seul, il amène avec lui toute une société. Il dit de préparer les plus belles chambres du château. La bibliothèque et le salon doivent être aussi mis en éclat. Il me dit également d'envoyer chercher des gens pour aider à la cuisine, soit à Millcote, soit dans tout autre endroit. Les dames amèneront leurs femmes de chambre et les messieurs leurs valets. La maison sera pleine. » Après avoir parlé, Mme Fairfax avala son déjeuner et partit pour donner ses ordres. Il y eut en effet beaucoup à faire pendant les 3 jours suivants. Toutes les chambres de Thornfield m'avaient semblé très propres et très bien arrangées, mais il paraît que je m'étais trompée. 3 servantes nouvelles arrivèrent pour aider les autres. Tout fut frotté et brossé, les peintures furent lavées, les tapis battus, les miroirs et les lustres polis, les feux allumés dans les chambres, les matelas de plumes mis à l'air, les draps séchés devant le foyer. Jamais je n'ai rien vu de semblable. Adèle courait au milieu de ce désordre. Les préparatifs de cette réception et la pensée de tous les gens qu'elle allait voir la rendaient folle de joie. Elle voulut que Sophie vérifiât ses toilettes, ainsi qu'elle appelait ses robes, afin de rafraîchir celles qui étaient passées et d'arranger les autres. Quant à elle, elle ne faisait que bondir dans les chambres, sauter sur les lits, se coucher sur les matelas, entasser les oreillers, les traversins, devant d'énormes feux. Elle était libérée de ses leçons. Madame Fairfax m'avait demandé mes services, et je passais toute ma journée dans l'office à l'aider tant bien que mal, elle et la cuisinière. J'apprenais à faire du flan, des talmouses, de la pâtisserie française, à préparer le gibier, à arranger les desserts. On attendait toute la compagnie le jeudi à l'heure du dîner, c'est-à-dire à 6 heures. Je n'eus pas le temps d'entretenir mes chimères, et je fus aussi active et aussi gaie que qui que ce fût, excepté Adèle. Cependant, quelquefois ma gaieté se refroidissait, et en dépit de moi-même, je me laissais de nouveau aller aux doutes et aux sombres conjectures, et cela surtout lorsque je voyais la porte de l'escalier du 3e, qui depuis quelque temps était toujours restée fermée, s'ouvrir lentement et donner passage à Grace Poole, qui glissait alors tranquillement le long du corridor pour entrer dans les chambres à coucher et dire un mot à l'une des servantes, peut-être sur la meilleure manière de polir une grille, de nettoyer un marbre de cheminée ou d'enlever les taches d'une tenture. Elle descendait à la cuisine une fois par jour pour dîner, fumait un instant près du foyer et retournait dans sa chambre, triste, sombre et solitaire, emportant avec elle un pot de porteur. Sur 24 heures, elle n'en passait qu'une avec les autres domestiques. Le reste du temps, elle restait seule dans une chambre basse du second étage, où elle cousait et riait probablement de son rire terrible. Elle était aussi seule qu'un prisonnier dans son cachot. Mais ce qui m'étonna, c'est que personne dans la maison, excepté moi, ne semblait s'inquiéter des habitudes de Grace. Personne ne se demandait ce qu'elle faisait là. Personne ne la plaignait de son isolement. Un jour, je saisis un fragment de conversation entre Léa et une femme de journée. Elle s'entretenait de Grace. Léa dit quelque chose que je n'entendis pas, et la femme de journée répondit « Elle a sans doute de bons gages. » « Oui, dit Léa, je souhaiterais bien que les miens fussent aussi forts. Non pas que je me plaigne. On paye bien à Thornfield. Mais Madame Poole reçoit 5 fois autant que moi, et elle met de côté. » Tous les trimestres, elle va porter de l'argent à la banque de Millcote. Je ne serais pas étonnée qu'elle eût assez pour mener une vie indépendante. Mais je crois qu'elle est habituée à Thornfield. Et puis, elle n'a pas encore 40 ans. Elle est forte et capable de faire bien des choses. Il est trop tôt pour cesser de travailler. C'est une bonne domestique ? Reprit la femme de journée. Oh, elle comprend mieux que personne ce qu'elle a à faire, répondit Léa d'un ton significatif. Tout le monde ne pourrait pas chausser ses souliers, même pour de l'argent. « Oh, pour cela non, » ajouta la femme de journée. « Je m'étonne que le maître... » Elle allait continuer, mais Léa m'aperçut et fit un signe à sa compagne. Alors celle-ci ajouta tout bas. « Est-ce qu'elle ne sait pas ?» Léa secoua la tête et la conversation cessa. Tout ce que je venais d'apprendre, c'est qu'il y avait un mystère à Thornfield, mystère que je ne devais pas connaître. Le jeudi arriva. Les préparatifs avaient été achevés le soir précédent. On avait tout mis en place, tapis, rideaux festonnés, couvre-pieds blancs, les tables de jeu avaient été disposées, les meubles frottés, les vases remplis de fleurs. Tout était frais et brillant. La grande salle avait été nettoyée. La vieille horloge, l'escalier, la rampe resplendissaient comme du verre. Dans la salle à manger, les étagères étaient garnies de brillantes porcelaines. Des fleurs exotiques répandaient leur parfum dans le salon et le boudoir. L'après-midi arriva. Madame Fairfax mit sa plus belle robe de satin noir, ses gants et sa montre d'or, car c'était elle qui devait recevoir la société, conduire les dames dans leurs chambres, etc. Adèle aussi voulut s'habiller, bien que je ne crusse pas qu'on la demanderait ce jour-là pour la présenter aux dames. Néanmoins, ne désirant pas la contrarier, je permis à Sophie de lui mettre une robe de mousseline blanche. Quant à moi, je ne changeais rien à ma toilette. J'étais bien persuadée qu'on ne me ferait pas sortir de la salle d'études, vrai sanctuaire pour moi et agréable refuge dans les temps de trouble. Nous avions eu une journée douce et sereine, une de ces journées de fin de mars ou de commencement d'avril qui semblent annoncer l'été. Je dessinais, et comme la soirée même était chaude, j'avais ouvert les fenêtres de la salle d'études. « Il commence à être tard, » dit Madame Fairfax en entrant bruyamment. « Je suis bien aise d'avoir commandé le dîner pour 1 heure plus tard que ne l'avait demandé M. Rochester, car il est déjà 6 heures passées. J'ai envoyé John regarder s'il n'apercevait rien sur la route. Des portes du parc, on voit une partie du chemin de Millcote. » Elle s'avança vers la fenêtre. « Le voilà qui vient, » dit-elle. Puis elle s'écria. « Eh bien, John, quelle nouvelle ?»« Ils viennent, madame. Ils seront ici dans 10 minutes, » répondit John. Je la suivis, faisant attention à me mettre de côté, de manière à être cachée par le rideau et à voir sans être vue. Les 10 minutes de John me semblèrent très longues. Mais enfin, on entendit le bruit des roues. 4 cavaliers galopaient en avant. Derrière eux, venaient 2 voitures découvertes où j'aperçus des voiles flottants et des plumes ondoyantes. 2 des cavaliers étaient jeunes et beaux. Dans le 3e, je reconnus M. Rochester monté sur son cheval noir Mesrour et accompagné de Pilot qui bondissait devant lui. À côté de lui, j'aperçus une jeune femme. Tous 2 marchaient en avant de la troupe. Son habit de cheval d'un rouge pourpre touchait presque à terre. Son long voile soulevé par la brise effleurait les plis de sa robe, et à travers, on pouvait voir de riches boucles d'un noir d'ébène. « Mademoiselle Ingram !» s'écria Madame Fairfax, et elle descendit rapidement. La cavalcade tourna bientôt l'angle de la maison, et je la perdis de vue. Adèle demanda à descendre, mais je la pris sur mes genoux, et je lui fis comprendre que ni maintenant ni jamais elle ne devrait aller voir les dames à moins que son tuteur me la fît demander, et que si M. Rochester la voyait prendre une semblable liberté, il serait certainement fort mécontent. Elle pleura un peu, je pris aussitôt une figure grave, et elle finit par essuyer ses yeux. On entendait un joyeux murmure dans la grande salle. Les voix graves des messieurs et les accents argentins des dames se mêlaient harmonieusement. Mais bien qu'il ne parlât pas haut, la voix sonore du maître de Thornfield souhaitant la bienvenue à ses aimables hôtes retentissait au-dessus de toutes les autres, puis des pas légers montèrent l'escalier. On entendit dans le corridor des rires doux et joyeux. Les portes s'ouvrirent, se refermèrent, et au bout de quelque temps, tout rentra dans le silence. « Elle change de toilette !» dit Adèle, qui écoutait attentivement et qui suivait chaque mouvement, et elle soupira. « Chez maman, reprit-elle, quand il y avait du monde, j'allais partout, au salon, dans les chambres. Souvent, je regardais les femmes de chambre coiffées et habiller les dames, et c'était si amusant. Comme cela, au moins, on apprend. « Avez-vous faim, Adèle ?»« Mais oui, mademoiselle, voilà 5 ou 6 heures que nous n'avons pas mangé. »« Eh bien, pendant que les dames sont dans leur chambre, je vais me hasarder à descendre, et je tâcherai d'avoir quelque chose. » Sortant avec précaution de mon asile, je descendis l'escalier de service qui conduisait directement à la cuisine. Tout y était en émoi. La soupe et le poisson étaient arrivés à leur dernier degré de cuisson, et le cuisinier se penchait sur les casseroles qui toutes menaçaient de prendre feu d'un moment à l'autre. Dans la salle des domestiques, 2 cochers et 3 valets se tenaient autour du feu. Les femmes de chambre étaient sans doute occupées avec leurs maîtresses. Les gens, qu'on avait fait venir de Millcote, étaient également fort affairés. Je traversai ce chaos et j'arrivai au garde-manger, où je pris un poulet froid, quelques tartes, un pain, plusieurs assiettes, des fourchettes et des couteaux. Je me dirigeai alors promptement vers ma retraite. J'avais déjà gagné le corridor et fermé la porte de l'escalier quand un murmure général m'apprit que les dames allaient sortir de leur chambre. Je ne pouvais pas arriver à la salle d'études sans passer devant quelques-unes de leurs chambres, et je courais le risque d'être surprise avec mes provisions. Alors je restai tranquillement à l'un des bouts du corridor, comptant sur l'obscurité qui y était complète depuis le coucher du soleil. Les chambres furent bientôt privées de leurs belles habitantes. Toutes sortirent gaiement, et leurs vêtements brillaient dans l'obscurité. Elles restèrent un moment groupées à une des extrémités du couloir, pendant que moi je me tenais à l'autre. Elles parlèrent avec une douce vivacité. Elles descendirent l'escalier presque aussi silencieuse qu'un brouillard qui glisse le long d'une colline. Cette apparition m'avait frappée par son élégance distinguée. Adèle avait entrouvert la porte de la salle d'études et s'était mise à regarder. « Oh, les belles dames !» s'écria-t-elle en anglais. « Comme je serais contente d'aller avec elles. Pensez-vous, me dit-elle, que M. Rochester nous envoie chercher après dîner ?»« Non, en vérité. » « Monsieur Rochester a bien autre chose à faire. Ne pensez plus aux dames aujourd'hui. Peut-être les verrez-vous demain. En attendant, voilà votre dîner. » Comme elle avait très faim, elle fut un moment distraite par le poulet et les tartes. J'avais été bien inspirée d'aller chercher ces quelques provisions à l'office. Car sans cela, Adèle, moi et Sophie, que j'invitais à partager notre repas, nous aurions couru le risque de ne pas dîner du tout. En bas, on était trop occupés pour penser à nous. Il était 9 heures passées lorsqu'on retira le dessert, et à 10 heures, on entendait encore les domestiques emporter les plateaux et les tasses où l'on avait pris le café. Je permis à Adèle de rester debout beaucoup plus tard qu'ordinairement, parce qu'elle prétendit qu'elle ne pourrait dormir tant qu'on ne cesserait pas d'ouvrir et de fermer les portes en bas. « Et puis, ajoutait-elle, Monsieur Rochester pourrait nous envoyer chercher lorsque je serai habillée. Et alors, quel dommage !» Je lui racontai des histoires aussi longtemps qu'elle voulut. Ensuite, pour la distraire, je l'emmenai dans le corridor. La lampe de la grande salle était allumée, et en se penchant sur la rampe, elle pouvait voir passer et repasser les domestiques. Lorsque la soirée fut avancée, on entendit tout à coup des accords retentir dans le salon. On y avait transporté le piano. Nous nous assîmes toutes deux sur les marches de l'escalier pour écouter. Une voix se mêla bientôt aux puissantes vibrations de l'instrument. C'était une femme qui chantait, et sa voix était pleine de douceur. Le solo fut suivi d'un duo et d'un chœur. Dans les intervalles, le murmure d'une joyeuse conversation arrivait jusqu'à nous. J'écoutais longtemps, étudiant toutes les voix et cherchant à distinguer au milieu de ce bruit confus les accents de M. Rochester, ce qui me fut facile. Puis, je m'efforçais de comprendre ces sons que la distance rendait vagues. 11 heures sonnèrent. Je regardais Adèle qui appuyait sa tête contre mon épaule. Ses yeux s'apesantissaient. Je la pris dans mes bras et je la couchai. Lorsque les invités regagnèrent leur chambre, il était près 1 heure. Le jour suivant brilla, aussi radieux. Il fut consacré à une excursion dans le voisinage. On partit de bonne heure, quelques-uns à cheval, d'autres en voiture. Je vis le départ et le retour. De toutes les dames, Mademoiselle Ingram seule montait à cheval, et comme le jour précédent, M. Rochester galopait à ses côtés. Tous deux étaient séparés du reste de la compagnie. Je fis remarquer cette circonstance à Mme Fairfax, qui était à la fenêtre avec moi. « Vous prétendiez l'autre jour, dis-je, qu'il n'y avait aucune probabilité de les voir mariés, mais regardez vous-même si M. Rochester ne la préfère pas à toutes les autres. » « Oui, il l'admire sans doute. »« Et elle l'admire aussi, ajoutai-je. Voyez, elle se penche comme pour lui parler confidentiellement. Je voudrais voir sa figure. Je ne l'ai pas pu encore jusqu'ici. » « Vous la verrez ce soir, » répondit Mme Fairfax. « J'ai dit à M. Rochester combien Adèle désirait voir les dames. Il m'a répondu, « Eh bien, qu'elle vienne dans le salon après dîner, et demandez à Mlle Eyre de l'accompagner. » »« Oui, il a dit cela par pure politesse, mais je n'irai certainement pas, » répondis-je. « Je lui ai dit que vous n'étiez pas habitué au monde, et qu'il vous serait probablement pénible de paraître devant tous ces étrangers, mais il m'a répondu de son ton bref, « Niaiserie !» « Si elle fait des objections, dites-lui que je le désire vivement. Et si elle résiste encore, ajoutez que j'irai moi-même la chercher. »« Oh, je ne lui donnerai pas cette peine, » répondis-je. « J'irai, puisque je ne puis pas faire autrement. Mais j'en suis fâchée. Serez-vous là, Madame Fairfax ?»« Non, j'ai plaidé et j'ai gagné mon procès. Voici comment il faut faire pour éviter une entrée cérémonieuse. Ce qui est le plus désagréable de tout. » Vous irez dans le salon pendant qu'il est vide, avant que les dames aient quitté la table. Vous vous asseoirez tranquillement dans un petit coin. Vous n'aurez pas besoin de rester longtemps après l'arrivée des messieurs, à moins que vous ne vous amusiez. Il suffit que M. Rochester vous ait vu. Après cela, vous pourrez vous retirer. Personne ne fera attention à vous. Pensez-vous que tout ce monde restera longtemps au château ?
1 ou 2 semaines, certainement pas davantage.
Après le départ des invités, Sir John Lynn, qui vient d'être nommé membre de Millcote, se rendra à la ville. Je pense que M. Rochester l'accompagnera, car je suis étonnée qu'il ait fait un si long séjour à Thornfield. C'est avec crainte que je vis s'approcher le moment où je devais entrer dans le salon avec mon élève. Adèle avait passé tout le jour dans une perpétuelle extase. À partir du moment où on lui avait appris qu'elle allait être présentée aux dames, elle ne se calma un peu que lorsque Sophie commença à l'habiller. Quand ses cheveux furent arrangés en longues boucles bien brillantes, quand elle eut mis sa robe de satin rose, ses mitaines de dentelle noire, et qu'elle eut attaché autour d'elle sa longue ceinture,
elle demeura grave comme un juge. Il n'y eut pas besoin de lui recommander de ne rien déranger dans sa toilette. Lorsqu'elle fut habillée, elle s'assit soigneusement dans sa petite chaise, faisant bien attention à relever sa robe de satin de peur d'en salir le bas. Elle promit de ne pas remuer jusqu'au moment où je serai prête. Ce ne fut pas long. J'eus bientôt mis ma robe de soie grise, achetée à l'occasion du mariage de Mademoiselle Temple, et que je n'avais jamais portée depuis. Je lissai mes cheveux, je mis mon épingle de perles, et nous descendîmes. Heureusement, il n'était pas nécessaire de passer par la salle à manger pour entrer dans le salon, que nous trouvâmes vide. Un beau feu brûlait silencieusement sur le foyer de marbre, et les bougies brillaient au milieu des fleurs exquises qui ornaient les tables. L'arche qui donnait du salon dans la salle à manger était fermée par un rideau rouge. Quelque mince que fût cette séparation, les invités parlaient si bas qu'on ne pouvait rien entendre de leur conversation. Adèle semblait toujours sous l'influence d'une impression solennelle. Elle s'assit sans dire un mot sur le petit tabouret que je lui indiquai. Je me retirai près de la fenêtre et, prenant un livre sur une des tables, je m'efforçai de lire. Adèle apporta son tabouret à mes pieds. Au bout de quelque temps, elle me toucha le genou. « Qu'est-ce, Adèle ? » demandai-je. « Est-ce que je ne puis pas prendre une de ces belles fleurs, mademoiselle, seulement pour compléter ma toilette ?»« Vous pensez beaucoup trop à votre toilette, Adèle, » dis-je, en prenant une rose que j'attachais à sa ceinture. Elle soupira de satisfaction, comme si cette dernière joie eût mis le comble à son bonheur. Je me retournai pour cacher un sourire que je ne pus réprimer. Il y avait quelque chose de comique et de triste dans la dévotion innée et sérieuse de cette petite Parisienne pour tout ce qui se rapportait à la toilette. Tout à coup, j'entendis plusieurs personnes se lever dans la chambre voisine. Le rideau de l'arche fut tiré et j'aperçus la salle à manger, dont le lustre répandait une vive lumière sur le service de cristal et d'argent qui couvrait une longue table. Un groupe de dames était sous l'arche, elles entrèrent et le rideau retomba derrière elles. Elles étaient 8, mais quand elles entrèrent, elles me parurent beaucoup plus nombreuses. Quelques-unes étaient grandes, plusieurs d'entre elles habillées de blanc et toutes couvertes de vêtements amples et ondoyants qui les rendaient plus imposantes, comme les nuages qui entourent la lune l'agrandissent à nos yeux. Je me levai et les saluai. Une ou deux me répondirent par un mouvement de tête. Les autres se contentèrent de me regarder. Elles se dispersèrent dans la chambre. La légèreté de leurs mouvements les faisait ressembler à un troupeau d'oiseaux blancs. Quelques-unes s'étendirent à demi sur le sofa et les ottomanes. D'autres se penchèrent sur les tables pour regarder les fleurs et les livres. Plusieurs, enfin, formèrent un groupe autour du feu et se mirent à parler d'une voix basse, mais claire, qui semblait leur être habituelle. J'appris plus tard comment elles se nommaient, et je puis dès à présent les désigner par leur nom. Je vis d'abord Madame Ashton et ses deux filles. Elle avait dû être jolie et était encore bien conservée. Amy, l'aînée de ses filles, était petite. Sa figure et ses manières étaient piquantes, bien que naïves et enfantines. Sa robe de mousseline blanche et sa ceinture bleue s'harmonisaient bien avec sa personne. Sa sœur, Louisa, plus grande et plus élégante, était fort jolie. Elle avait une de ces figures que les Français appellent « minois chiffonnées ». Du reste, les deux sœurs étaient belles comme des lys. Lady Lynn était une femme de 40 ans, grande et forte, à la taille droite, au regard hautain. Elle était richement drapée dans une robe de satin changeant. Une plume bleu azur et un bandeau de pierres précieuses faisaient ressortir le brillant de ses cheveux noirs. Madame Dent était moins splendide, mais elle était plus femme. Elle avait la taille mince, la figure douce et pâle, et les cheveux blonds. Je préférais sa robe de satin noir, son écharpe en dentelle et ses quelques ornements de perles au splendide éclat de la noble lady. Mais trois personnes surtout se faisaient remarquer en partie à cause de leur haute taille. C'était la douairière Lady Ingram et ses deux filles, Blanche et Marie. Toutes trois étaient prodigieusement grandes. La douairière avait de 40 à 50 ans. Sa taille était encore belle et ses cheveux encore noirs, du moins aux lumières. Ses dents me semblèrent avoir conservé toute leur blancheur. Eu égard à son âge, elle devait passer aux yeux de presque tout le monde pour très belle, et elle l'était en effet. Mais il y avait dans toute sa tenue et dans toute son expression une insupportable fierté. Elle avait des traits romains et un double menton qui se fondait dans son énorme cou. Ses traits me parurent gonflés, assombris et même sillonnés par l'orgueil, orgueil qui lui faisait tenir la tête tellement droite qu'on eût facilement cru la position surnaturelle. Ses yeux étaient sauvages et durs, ils me rappelaient ceux de Madame Reed. Elle mâchait chacune de ses paroles. Sa voix était profonde, pompeuse, dogmatique, insupportable en un mot. Grâce à une robe en velours cramoisi et à un châle des Indes qu'elle portait en turban, elle croyait avoir la dignité d'une impératrice. Blanche et Marie étaient de sa taille, droites et grandes comme des peupliers. Marie était trop mince, mais Blanche était faite comme une Diane. Je la regardais avec un intérêt tout particulier. D'abord, je désirais savoir si son extérieur s'accordait avec ce que m'en avait dit Madame Fairfax. Ensuite, si elle ressemblait à la miniature que j'en avais faite. Enfin, il faut bien le dire, s'il y avait en elle de quoi plaire à M. Rochester. Elle était bien telle que me l'avait dépeinte Madame Fairfax, et telle que je l'avais reproduite. Je reconnaissais cette taille noble, ses épaules tombantes, ses yeux et ses boucles noires dont m'avait parlé Madame Fairfax. Mais sa figure était semblable à celle de sa mère. C'était Lady Ingram, plus jeune et moins sillonnée. Toujours le même front bas, les mêmes traits hautains, le même orgueil, moins sombre pourtant. Elle riait continuellement. Son rire était satirique, de même que l'expression habituelle de sa lèvre arquée. On dit que le génie apprécie sa valeur. Je ne sais si Mademoiselle Ingram avait du génie, mais bien certainement elle appréciait sa valeur. Aussi commença-t-elle à parler botanique avec la douce Madame Dent, qui, à ce qu'il paraît, n'avait pas étudié cette science, bien qu'elle aimât beaucoup les fleurs, surtout les fleurs sauvages, disait-elle. Mademoiselle Ingram l'avait étudiée, et elle débita tout son vocabulaire avec emphase. Je m'aperçus qu'elle se riait de l'ignorance de Madame Dent. Sa raillerie pouvait être habile. En tout cas, elle n'indiquait pas une bonne nature. Elle joua du piano. Son exécution était brillante. Elle chanta, sa voix était belle. Elle parla français avec sa mère, et je pus m'apercevoir qu'elle s'exprimait facilement et que sa prononciation était bonne. Marie avait une figure plus ouverte que Blanche, des traits plus doux et un teint plus clair. Mademoiselle Ingram avait un vrai teint d'espagnole, mais Marie n'était pas assez animée. Sa figure manquait d'expression et ses yeux de lumière. Elle ne parlait pas, et après avoir choisi une place, elle y resta immobile comme une statue. Les deux sœurs étaient vêtues de blanc. Mademoiselle Ingram me semblait-elle propre à plaire à M. Rochester? Je ne sais. Je ne connaissais pas son goût. S'il aimait les beautés majestueuses, Blanche était l'idéal. Elle devait être généralement admirée, et j'avais déjà eu une preuve presque certaine qu'elle plaisait à M. Rochester. Pour effacer mon dernier doute, il ne me restait qu'à les voir ensemble. Vous ne supposez pas, lecteur, qu'Adèle était restée tout ce temps immobile à mes pieds. Au moment où les dames entrèrent, elle se leva, s'avança vers elles, les salua cérémonieusement et leur dit avec gravité « Bonjour, mesdames !» Mademoiselle Ingram la regarda d'un air moqueur et s'écria « Oh, quelle petite poupée !»« Je crois, dit Lady Lynn, que c'est la pupille de M. Rochester, la petite fille française dont il nous a parlé. » Madame Dent la prit doucement par la main et l'embrassa. Amy et Louisa Ashton s'écrièrent ensemble « Oh, l'amour d'enfant !» Elles l'emmenèrent sur le sofa, et elle se mit à parler soit en français, soit en mauvais anglais, accaparant non seulement les deux jeunes filles, mais encore Madame Ashton et Lady Lynn. Elle fut gâtée autant qu'elle pouvait le désirer. Enfin, on apporta le café et on appela les messieurs. J'étais assise dans l'ombre, si toutefois il y avait un seul coin obscur dans un salon si bien éclairé. Le rideau de la fenêtre me cachait à moitié. Le reste de la société arriva. L'apparition des messieurs me parut imposante comme celle des dames. Ils étaient tous habillés de noir, la plupart grands et quelques-uns jeunes. Henri et Frédéric Lynn étaient ce qu'on appelle de brillants jeunes gens. Le colonel Dent me parut un beau militaire. Monsieur Ashton, magistrat du district, avait des manières de gentilhomme. Ses cheveux parfaitement blancs, ses sourcils et ses moustaches noires lui donnaient l'air d'un père noble. De même que ses sœurs, Lord Ingram était très grand, et comme elle, il était beau. Mais il partageait l'apathie de Marie. Il semblait avoir plus de longueur dans les membres que de vivacité dans le sang et de vigueur dans le cerveau. Où était M. Rochester ? Il arriva enfin. Je ne regardais pas du côté de la porte, et pourtant je le vis entrer. Je m'efforçais de concentrer toute mon attention sur les mailles de la bourse à laquelle je travaillais. J'aurais voulu ne penser qu'à l'ouvrage que j'avais dans les mains, aux perles d'argent et aux fils de soie posés sur mes genoux. Et pourtant, je ne pus m'empêcher de regarder sa figure et de me rappeler le jour où je l'avais vue pour la dernière fois, le moment où, après lui avoir rendu ce qu'il appelait un immense service, il prit mes mains et me regarda avec des yeux qui révélaient un cœur plein et prêt à déborder. Et j'avais été pour quelque chose dans cette émotion. J'avais été bien près de lui à cette époque. Qui est-ce qui avait pu changer ainsi nos positions relatives ? Car désormais nous étions étrangers l'un pour l'autre, si étrangers que je ne comptais même pas l'entendre m'adresser quelques mots. Et je ne fus pas étonnée lorsque, sans m'avoir même regardé, il alla s'asseoir de l'autre côté de la chambre pour causer avec l'une des dames. Lorsque je le vis absorbé par la conversation et que je fus convaincue que je pouvais examiner sans être observée moi-même, je ne tentai plus de me contenir. Je détournai mes yeux de mon ouvrage et je les fixai sur M. Rochester. Je trouvai dans cette contemplation un plaisir à la fois vif et poignant, aiguillon de l'or le plus pur, mais aiguillon de souffrance. Ma joie ressemblait à l'ardente jouissance de l'homme qui, mourant de soif, se traîne vers une fontaine qu'il sait empoisonner, et en boit l'eau, néanmoins, comme un divin breuvage. Il est vrai que ce que certains trouvent laid peut sembler beau à d'autres. La figure olivâtre et décolorée de M. Rochester, son front carré et massif, ses sourcils de jais, ses yeux profonds, ses traits fermes, sa bouche dure, en un mot, l'expression énergique et décidée de sa figure, ne rentrait en rien dans les règles de la beauté. Mais pour moi, son visage était plus que beau. Il m'intéressait et me dominait. M. Rochester s'était emparé de mes sentiments et les avait liés aux siens. Je n'avais pas voulu l'aimer. J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour repousser de mon âme ces premières atteintes de l'amour. Et dès que je le revoyais, toutes ces impressions se réveillaient en moi avec une force nouvelle. Il me contraignait à l'aimer, sans même faire attention à moi. Je le comparais à ses hôtes. Qu'était la grâce galante de Messieurs Lynn, l'élégance langoureuse de Lord Ingram, et même la distinction militaire du colonel Dent, devant son regard plein d'une force native et d'une puissance naturelle. Leur extérieur, leur expression, n'éveillaient aucune sympathie en moi, et pourtant, tout le monde les déclarait beaux et attrayants, tandis qu'on trouvait les traits de M. Rochester durs et son regard triste. Je les entendis rire. La bougie avait autant d'âme dans sa lumière que dans leur sourire. Je vis aussi M. Rochester sourire, ses traits s'adoucir, ses yeux devinrent aimables, brillants et chercheurs. Il parlait dans ce moment à Louise et à Amy Ashton. Je m'étonnai de les voir rester calmes devant ce regard qui m'avait semblé si pénétrant. Je croyais que leurs yeux allaient se baisser, leurs joues se colorer, et je fus heureuse de ce qu'elles n'étaient nullement émues. « Il n'est pas pour elle ce qu'il est pour moi, pensais-je. Il n'est pas de leur nature, et je crois qu'il est de la mienne. J'en suis même sûre. Je sens comme lui. Je comprends le langage de ses mouvements et de sa tenue. Quoique le rang et la fortune nous séparent, j'ai quelque chose dans ma tête, dans mon cœur, dans mon sang et dans mes nerfs qui forme entre nous une union spirituelle. Si, il y a quelques jours, j'ai dit que je n'avais rien à faire avec lui, si ce n'était à recevoir mon salaire, si je me suis défendue de penser à lui autrement que comme à un maître qui me paye, j'ai proféré un blasphème contre la nature. Tout ce qu'il y a en moi de bon, de fort, de sincère, va vers lui. Je sais qu'il faut cacher mes sentiments, étouffer toute espérance, me rappeler qu'il ne peut pas faire grande attention à moi. Car lorsque je prétends que je suis de la même nature que lui, je ne veux pas dire que j'ai sa force et son attrait, mais simplement que j'ai certains goûts et certaines sensations en commun avec lui. Il faut donc me répéter sans cesse que nous sommes séparés pour toujours, et que néanmoins je dois l'aimer tant que je vivrai. On passa le café. Depuis l'arrivée des messieurs, les dames sont devenues vives comme des alouettes. La conversation commence joyeuse et animée. Le colonel Dent et M. Ashton parlent politique. Leurs femmes écoutent. Les deux orgueilleuses douairières Lady Lynn et Lady Ingram causent ensemble. Sir George, gentilhomme de campagne, gras et frais, se tient debout devant le sofa, sa tasse de café à la main, et place de temps en temps son mot. M. Frederick Lynn est assis à côté de Mary Ingram et lui montre les gravures d'un beau livre. Elle regarde et sourit de temps en temps, mais parle peu. Le grand et flegmatique Lord Ingram se penche sur le dos de la chaise de la vivante petite Amy Ashton. Elle lui jette par moments un coup d'œil et gazouille comme un roitelet, car elle préfère Lord Ingram à M. Rochester. Henry prend possession d'une ottomane au pied de Louise. Adèle est assise à côté de lui. Il tâche de parler français avec elle et Louise rit de ses fautes. Avec qui ira Blanche Ingram? Elle est seule devant une table. Gracieusement penchée sur un album, elle semble attendre qu'on vienne la chercher. Mais comme l'attente la fatigue, elle se décide à choisir elle-même son interlocuteur. M. Rochester, après avoir quitté les demoiselles Ashton, se place devant le feu aussi solitairement que Blanche l'est devant la table. Mais Mlle Ingram va s'asseoir de l'autre côté de la cheminée, vis-à-vis de lui. « Monsieur Rochester, dit-elle, je croyais que vous n'aimiez pas les enfants. » « Et vous aviez raison. » « Alors, qui est-ce qui vous a décidé à vous charger de cette petite poupée-là » reprit-elle en montrant Adèle. « Où avez-vous été la chercher ?»«
Je n'ai pas été la chercher. On me l'a laissée sur les bras. » »«
Vous auriez dû l'envoyer en pension. » »«
Je ne le pouvais pas. Les pensions sont si chères. » »«
Mais il me semble que vous avez une gouvernante. J'ai tout à l'heure vu quelqu'un avec votre pupille. Serait-elle partie ? Ah non, elle est là, derrière le rideau. Vous la payez sans doute. » Je crois que c'est aussi cher que de la mettre en pension, et même plus, car vous avez à les entretenir toutes les deux. » Je craignais, ou pour mieux dire, j'espérais, que cette allusion à ma présence forcerait M. Rochester à regarder de mon côté, et involontairement, je m'enfonçais encore davantage dans l'ombre. Mais il ne tourna pas les yeux. « Je n'y ai pas pensé, dit-il avec indifférence et regardant droit devant lui.
« Non, vous ne pensez jamais à ce qui est d'économie ou de bon sens. Si vous entendiez maman parler des gouvernantes, Mary et moi, nous en avons eu au moins une douzaine, la moitié détestable, les autres ridicules, toutes insupportables, n'est-ce pas, maman ?
Avez-vous parlé, ma chérie ? » La jeune fille réitéra sa question.
« Ma bien-aimée, ne me parlez pas des gouvernantes. » Ce mot me fait mal. J'ai souffert le martyre avec leur inhabileté et leurs expressions. Je remercie le ciel de ne plus avoir affaire à elles. »
Madame Dent se pencha alors vers Lady Ingram et lui dit quelque chose tout bas. Je suppose, d'après la réponse, que Madame Dent lui faisait remarquer la présence d'un des membres de cette race sur laquelle elle venait de lancer un anathème.
« Tant pis, » reprit la noble dame, « j'espère que cela lui sera profitable. » Puis elle ajouta plus bas, « mais assez haut pourtant, pour que les sons arrivassent jusqu'à moi. Je l'ai déjà examiné, je suis bon juge des physionomies, et dans la sienne, je lis tous les défauts qui caractérisent sa classe. »
« Et quels sont-ils, madame ? » demanda tout haut M. Rochester.
« Je vous les dirai dans un tête-à-tête, » reprit-elle, en secouant trois fois son turban d'une manière significative.
« Mais ma curiosité sera passée alors, et c'est maintenant qu'elle voudrait être satisfaite. »«
Demandez-le donc à Blanche, elle est plus près de vous que moi. »«
Oh, ne me chargez pas de cette tâche, maman. Je n'ai du reste qu'un mot à dire sur toute cette espèce, c'est qu'elle ne peut que nuire. » Non pas que les institutrices m'aient jamais fait beaucoup souffrir. Théodore et moi, nous n'avons épargné aucune taquinerie à nos gouvernantes. Mary était trop endormie pour prendre une part active à nos complots. C'est surtout à Madame Joubert que nous avons joué de bons tours. Mademoiselle Wilson était une pauvre créature triste et malade. Elle ne valait même pas la peine qu'on se serait donné pour la vaincre. Madame Gray était dure et insensible. Rien n'avait effet sur elle. Mais Madame Joubert, je vois encore sa colère lorsque nous la poussions à bout. Quand, après avoir renversé notre thé, émietté nos tartines, jeté nos livres au plafond, nous nous mettions à faire un charivari général avec les pupitres, les règles, le cendrier et le feu. Théodore, Vous rappelez-vous ces jours de gaieté ?
Oui, certainement, répondit lentement Lord Ingram. Et la pauvre vieille avait l'habitude de nous appeler méchants enfants. Alors, nous lui faisions des sermons où nous lui prouvions que c'était de la présomption à elle, ignorante comme elle l'était, de vouloir instruire des jeunes gens aussi habiles que nous.
Oui, et vous savez, Théodore, je vous aidais aussi à persécuter votre précepteur, ce monsieur Vinings, à la figure couleur de petit lait. Nous l'avions surnommé le ministre malade de la pépie. Lui et mademoiselle Wilson prirent la liberté de tomber amoureux l'un de l'autre, ou du moins Théodore et moi nous le supposâmes. Nous avions surpris de tendres regards, des soupirs que nous avions interprétés comme des marques certaines de cette belle passion. Et je vous assure que bientôt le public fut au courant de notre découverte. Ce fut un moyen de se débarrasser de ce boulet que nous traînions à nos pieds. Dès que maman sut ce qui se passait, elle déclara que c'était immoral, n'est-ce pas, maman ?
Oui, ma chérie, et ce n'était pas à tort. Il y a mille raisons qui font que dans une maison bien dirigée, on ne doit jamais laisser naître d'affection entre une gouvernante et un précepteur. D'abord, ô ma gracieuse mère, épargnez-nous cette énumération. Au reste, nous la connaissons tous. Mauvais exemple pour l'ignorance des enfants, négligence continuelle dans les devoirs de la gouvernante et du précepteur, alliance et confiance mutuelle, confidence qui en résulte, insolence inévitable à l'égard des maîtres, révolte et insurrection générale. Ai-je raison, baronne Ingram de Ingram Park ?
Oui, mon Bolis, vous avez raison, comme toujours.
Alors il est inutile d'en parler plus longtemps. Changeons de conversation. Amy Ashton n'entendit pas cette phrase, ou ne voulut pas y faire attention, car elle s'écria de sa voix douce et enfantine.
« Louisa et moi, nous avions aussi l'habitude de tourmenter notre gouvernante, mais elle était si bonne qu'elle supportait tout. Rien ne l'irritait. Jamais elle ne se fâchait, n'est-ce pas, Louisa ?
Oh non ! Nous avions beau renverser son pupitre, sa boîte à ouvrage, mettre ses tiroirs en désordre, elle ne nous en voulait jamais. » Elle était si bonne qu'elle nous donnait tout ce que nous lui demandions.
« Est-ce que par hasard, dit mademoiselle Ingram en mordant sa lèvre ironique, nous allons être obligés d'entendre le résumé de toutes les vertus des gouvernantes ? Pour éviter cet ennui, je demande de nouveau qu'on change de conversation. Monsieur Rochester, approuvez-vous ma pétition ?
Oui, madame, je vous approuve en ceci, comme en tout point.
Alors c'est à moi de la faire exécuter. « Signor Eduardo, êtes-vous en voie aujourd'hui ?»«
Oui, si vous me le commandez, Donna Bianca. »«
Alors, signor, mon Altesse vous ordonne de préparer vos poumons, car on va vous les demander pour mon royal service. »«
Qui ne voudrait être le Rizzio d'une semblable Marie ?»«
Je me soucie bien de Rizzio, s'écria-t-elle en secouant ses boucles abondantes et en se dirigeant vers le piano. « À mon avis, » le ménétrier David était un imbécile. Je préfère le noir Bothwell. Je trouve qu'un homme doit avoir en lui quelque chose de satanique. Et malgré tout ce que raconte l'histoire sur James Hepburn, il me semble que ce bandit devait être un de ces héros fiers et sauvages que j'aurais aimé apprendre pour époux.
Messieurs, vous l'entendez.
Eh bien, quel est celui d'entre vous qui ressemble le plus à Bothwell ?
« C'est sur vous que doit tomber notre choix, » répondit le colonel Dent.
« Sur mon honneur, je vous en remercie, » reprit M. Rochester. Mademoiselle Ingram s'était assise devant le piano avec une grâce orgueilleuse. Après avoir royalement étendu sa robe blanche, elle exécuta un prélude brillant, sans cesser néanmoins de parler. Ce soir-là, elle était enivrée. Ses paroles et son attitude semblaient vouloir exciter non seulement l'admiration, mais aussi l'étonnement de ses auditeurs. Elle désirait les frapper par son éclat. Quant à moi, elle me sembla très hardie.
« Oh !» reprit-elle, en continuant à promener ses doigts sur l'instrument sonore. « Je suis fatiguée des jeunes gens de nos jours, pauvres misérables créatures qui craindraient de dépasser la grille du parc de leur père et même d'y aller sans la permission de leur mère ou de leur gouverneur, qui ne songent qu'à leur belle figure, à leurs mains blanches et à leurs petits pieds, comme si les hommes avaient rien à faire avec la beauté, comme si le charme extérieur n'était pas l'héritage légitime et le privilège exclusif de la femme.
Je vous accorde qu'une femme laide est une tache dans la création, où tout est beau. Mais quant aux hommes, ils ne doivent chercher que la force et le courage. Leur occupation, c'est la chasse et le combat. Le reste ne vaut pas qu'on y pense. Voilà quelle serait ma devise, si j'étais homme.
Quand je me marierai, continua-t-elle après une pause que personne n'interrompit, je ne veux pas trouver un rival dans mon mari. Je ne veux voir aucun prétendant près de mon trône. J'exigerai de lui un hommage complet. Je ne veux pas que son admiration soit partagée entre moi et la figure qu'il verra dans sa glace. Maintenant chantez, monsieur Rochester, et je vais vous accompagner.
Je ne demande qu'à vous obéir, répondit-il.
Tenez, voilà un chant de corsaire. Sachez que j'aime les corsaires. Ainsi donc, je vous prie de chanter Conspirito.
Un ordre sorti des lèvres de mademoiselle Ingram animerait un marbre.
Eh bien alors, prenez garde, car si la manière dont vous allez chanter ne me plaît pas, pour vous faire honte, je vous montrerai moi-même comment cette romance doit être comprise.
C'est offrir une prime à l'incapacité, et désormais je vais faire mes efforts pour me tromper.
Gardez-vous-en bien. Si vous vous trompez volontairement, la punition sera proportionnée à la faute.
Mademoiselle Ingram devrait être indulgente, car il lui est facile d'infliger un châtiment plus grand que ne pourrait le supporter un homme.
« Oh, expliquez-vous !» s'écria la jeune fille.
« Pardon, madame, toute explication serait inutile. Votre instinct a dû vous apprendre qu'un regard sévère lancé par vos yeux est une peine capitale.
« Chantez !» dit-elle en recommençant l'accompagnement.
« Voilà le moment de m'échapper, pensais-je. Mais les notes qui frappèrent mes oreilles me forcèrent à rester. »
Madame Fairfax m'avait annoncé que M. Rochester avait une belle voix. Elle était puissante, en effet, et révélait la force de son âme. Elle était pénétrante et éveillait en vous d'étranges sensations. J'écoutais jusqu'à la dernière vibration de ses notes pleines et sonores. J'attendis que le mouvement causé par les compliments d'usage se fût un peu calmé. Alors je quittai mon coin et je sortis par la porte de côté, qui, heureusement, était tout près de moi. Un corridor étroit conduisait dans la grande salle. Je m'aperçus, en le traversant, que mon soulier était dénoué. Je m'agenouillai sur le paillasson de l'escalier pour le rattacher. J'entendis tout à coup la porte de la salle à manger s'ouvrir et des pas d'hommes se diriger de mon côté. Je me relevai précipitamment et je me trouvai face à face avec M. Rochester.
« Comment vous portez-vous ? » me demanda-t-il.
« Très bien, monsieur.
Pourquoi n'êtes-vous pas venu me parler dans le salon ?»
Je pensais que j'aurais bien pu lui retourner sa question, mais n'osant pas prendre cette liberté, je lui répondis. « Vous aviez l'air occupé et je n'aurais pas osé vous déranger, monsieur.
Et qu'avez-vous fait pendant mon absence ?»«
Rien de particulier, j'ai continué à donner des leçons à Adèle. »
« Et vous êtes devenu beaucoup plus pâle que vous ne l'étiez. Je l'ai remarqué tout de suite. Dites-moi ce que vous avez. »«
Je n'ai rien, monsieur. »«
Avez-vous attrapé froid la nuit où vous m'avez à moitié noyé ?»«
Pas le moins du monde. »«
Retournez au salon. Vous êtes parti trop tôt. »«
Je suis fatigué, monsieur. »
Il me regarda un instant.
« Et un peu triste, » ajouta-t-il.
« Qu'avez-vous ? Dites-le-moi, je vous en prie. »
« Rien, rien, monsieur, je ne suis pas triste. »«
Je suis bien sûr du contraire. Vous êtes si triste que le moindre mot amènerait des larmes dans vos yeux. Tenez, en voilà une qui brille et se balance sur vos cils. Si j'avais le temps et si je ne craignais pas de voir apparaître quelques servantes curieuses, je saurais ce que signifie tout cela. Allons, pour ce soir je vous excuse, mais sachez qu'aussi longtemps que mes hôtes seront ici, « je vous demande de venir tous les soirs dans le salon. Je le désire vivement. Faites-le, je vous en prie. Maintenant partez et envoyez Sophie chercher Adèle. Bonsoir, ma. » Il s'arrêta, mordit ses lèvres et me quitta brusquement.